Un journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Christophe Castaner est-il en train de perdre la confiance des policiers? Les premiers rendez-vous entre le ministre de l'Intérieur et les syndicats de police se sont mal passés. Les policiers qui se sentent lâchés par leur ministre de tutelle. Le point avec Margot Delpierre. Le deuxième tour des élections municipales pourrait être reporté en Guyane. C'est en tout cas ce que demandent de nombreux élus alors que le nombre de cas de Covid-19 explose dans le département français d'Amérique latine. Les explications de Pierre Neveu. 5% de profs décrocheurs selon Jean-Michel Blanquer. Les syndicats d'enseignants contestent et dénoncent l'estimation du ministre de l'Éducation. Lufthansa va supprimer 22 000 emplois, soit 16% de ses effectifs. La compagnie allemande est frappée de plein fouet par la crise économique du transport aérien. L'affront de policières contre Christophe Castaner prend de l'ampleur. À Nice hier soir comme à Toulon aujourd'hui, des dizaines de policiers ont manifesté leur colère. Ils voulaient dénoncer les dernières initiatives du ministre de l'Intérieur. La technique de l'étranglement est désormais interdite en interpellation. Un policier pourra être suspendu en cas de soupçon avéré de racisme. Enfin, l'interdiction de manifester ne s'applique plus lorsqu'une émotion mondiale dépasse les règles juridiques. Dixit Christophe Castaner. En référence à la mort de George Floyd aux États-Unis. C'est dans ce contexte chahuté que le ministre reçoit cette semaine les syndicats de policiers. Les premières organisations ont été reçues cet après-midi place Beauvau, Margot Delpierre.
Ils ont l'impression d'être désavoués depuis lundi et le discours de Christophe Castaner. Parmi les annonces qui ne passent pas, il y a la clé d'étranglement, méthode d'interpellation que le ministre veut bannir. Le premier syndicat de police, Alliance, demande son maintien, le temps de trouver un autre moyen fiable et efficace selon l'organisation qui a écrit au ministre de l'Intérieur et refuse la généralisation du taser, pistolet à impulsion électrique. Dans ce courrier, Alliance demande aussi la création immédiate d'une commission de travail validant une nouvelle méthode avant de la substituer progressivement. En attendant, Alternative Police CFDT demande à ses collègues de ne plus arrêter d'individus récalcitrants puisqu'on leur retire les moyens de faire leur travail de manière sécurisée, estime le syndicat. Christophe Castaner va devoir rassurer les policiers qui dénoncent un bashing, une campagne de dénigrement. Cet après-midi, à Toulon, une quarantaine d'entre eux ont symboliquement déposé leurs menottes place de la Liberté. Face aux confusions et aux amalgames entretenus par une minorité, je partage avec vous le sentiment d'une profonde injustice. Voilà ce qu'a écrit aujourd'hui le directeur de la police nationale à ses membres. Ne doutez pas de la République, ne doutez pas de vos patrons policiers, assure de son côté le préfet de police de Paris dans une lettre rédigée hier.
Margot Delpierre, merci. Christophe Castaner a perdu la confiance des policiers, vient d'affirmer le syndicat Unité SGPFO à la sortie de son rendez-vous place Beauvau. Son secrétaire général Yves Lefebvre appelle tous les policiers français à déposer ce soir leurs menottes devant les commissariats. En tout cas, une nouvelle affaire vient alimenter le débat sur les violences policières. L'interpellation de 4 collégiens dans un parc de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, c'était le 26 mai dernier. Leurs familles ont porté plainte pour détention arbitraire et injures racistes. Antoine Maretz, le parquet de Créteil, a décidé de saisir l'IGPN, la police des polices.
Le 26 mai dernier, 4 collégiens de 14 à 15 ans sont interpellés à Vitry-sur-Seine après un contrôle dans un parc. Leur signalement correspond à la description des auteurs d'un vol à l'arraché. Sur ces 4 garçons, 2 sont d'origine maghrébine et l'un est noir. Selon l'avocat des familles, maître Jérôme Carcinti, ils sont alors menottés en pleine rue pendant 2 heures avant d'être emmenés au commissariat du Kremlin-Bicêtre. 3 d'entre eux affirment avoir essuyé dans le véhicule des insultes homophobes et racistes et l'un avoir été giflé.
On a les négros d'un côté, on a le condé arabe, on a vous êtes tous des PD. Un d'entre eux a pris une gifle. On a eu quand même un maintien total en garde à vue de l'ordre de 27 à 28 heures en violation totale des règles puisque c'est maximum 24 heures. Et qu'ils ont été au total remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux après qu'on leur ait dit qu'on avait des vidéos contre eux, qu'on avait des témoignages, que l'affaire était dans le sac.
Selon maître Carcinti, 4 jours plus tard, 2 de ces adolescents sont à nouveau pris à partie par 2 des agents de la BAC qui les avaient interpellés.
Ils vont mettre le jeune qui avait déjà pris une gifle à part en lui disant « Assieds-toi qui a déposé plainte contre nous », à le fouiller, à l'étrangler, à le prendre au collet, en fouillant son téléphone portable, en lui demandant son code PIN, en regardant ses messages.
Le parquet de Créteil va prochainement saisir l'inspection générale de la police nationale après avoir reçu les plaintes des familles pour détention arbitraire et injures à caractère raciste et homophobe.
Antoine Marette, merci. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des investigations sur Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics est visé par une accusation de viol. Les faits allégués remontent à 2009. En août 2018, Gérald Darmanin avait bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire, mais la Cour de cassation avait ordonné le réexamen de ce non-lieu. L'EFS, l'établissement français du sang, lance un appel aux dons car les réserves de sang ont baissé depuis le déconfinement, alors que les donneurs avaient massivement répondu présents au plus fort de la crise sanitaire. L'EFS, qui participe activement à la recherche sur la Covid-19, Tara Schlegel, l'établissement fournit du plasma de patients guéris dans le cadre d'un essai clinique.
Oui, un plasma qui contient des anticorps ayant déjà lutté contre le coronavirus et qu'on peut injecter aux nouveaux malades. C'est une technique prônée précédemment, rappelle Pascal Morel, directeur médical de l'établissement français du sang.
Les produits sanguins sont apparus très tôt comme pouvant être une solution thérapeutique pour cette maladie. Et là, on rend hommage à Pierre Thiberguin qui a depuis longtemps œuvré pour que le plasma de convalescent puisse être utilisé en thérapeutique. Et ça a été essayé dans Ebola, échoué dans Ebola. Et là, on a repris exactement la même démarche en collaboration avec la PHP pour monter l'étude Coriplasme qui correspond finalement à l'essai clinique du plasma de convalescent en France.
Cet essai englobe 14 patients. Pas encore de résultat définitif, mais le docteur Morel est confiant.
La preuve est en train de se constituer doucement de l'efficacité de cette thérapeutique.
À l'étranger aussi, États-Unis, Italie, Allemagne, Belgique mènent des essais. Si l'efficacité du plasma est prouvée, l'établissement français du sang pourra répondre très vite, se félicite son président, François Toujas.
Nous avons en quelques semaines, et je crois qu'on ne le dit pas assez, réussi à nous doter d'un stock stratégique de plasma convalescent. Ce stock stratégique est bien évidemment conservé, puisque le plasma se conserve un an, si ce n'est deux ans, et peut éventuellement être mobilisé à tout moment s'il y avait une nouvelle épidémie. Deuxième élément, et c'est ça aussi la force de l'établissement, nous tenons à ce que quel que soit l'endroit de la République où se trouvent les personnes qui ont besoin de produits sanguins, chacun puisse bénéficier de la même chance.
Grâce à ce service public, 1500 poches de plasma de patients guéris sont aujourd'hui disponibles jusque dans les dom-tom en cas de deuxième vague.
Tara Schlegel, merci. La Guyane, nous allons en parler justement. On saura en fin de semaine si le deuxième tour des municipales se tiendra effectivement le 28 juin prochain. Avec le reflux de l'épidémie en métropole, le maintien du scrutin est l'hypothèse la plus probable. Mais la situation est différente en Guyane, dans le département français d'Amérique latine. Le nombre de cas positifs de Covid a explosé cette semaine avec le déconfinement. 917 cas contre 144 le mois dernier. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
La situation est suffisamment inquiétante pour que des voix s'élèvent pour demander le report du second tour des municipales en Guyane.
Et le conseil scientifique de Guyane est formel. Le scrutin du 28 juin doit être reporté. Ce qui prime, c'est la santé des Guyanais, souligne Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale. Il vient d'écrire au Premier ministre pour lui demander le report du second tour en raison de la généralisation de l'épidémie sur le territoire. Le virus progresse de façon importante, notamment dans les grandes villes, Cayenne et Kourou. Situation d'autant plus inquiétante que près d'1 500 000 personnes sont contaminées en Amérique latine. Le Brésil voisin est le troisième pays le plus endeuillé au monde avec près de 40 000 morts. Alors pour lutter contre la propagation de l'épidémie, le préfet de Guyane en appelle à la responsabilité de tous. Il ordonne un couvre-feu et un reconfinement dans 16 des 22 communes du territoire, des restrictions de circulation et une urgence sanitaire incompatible avec un bon déroulement de la campagne électorale. Mais pour l'heure, aucune décision n'a été prise concernant le maintien ou le report des municipales. La loi votée par le Parlement ces derniers jours permet l'annulation du second tour des élections municipales et communautaires en cas d'aggravation de l'épidémie. L'avis que rendra le Conseil scientifique dimanche prochain sera donc décisif pour la Guyane, comme pour Mayotte, l'autre foyer de l'épidémie en Outre-mer.
Pierre Neveu, merci. En métropole, la campagne des élections municipales nous emmène ce soir à Paris. Ce matin, Rosalie Lafarge nous a dressé un tableau général de la situation dans la capitale. Anne Hidalgo, grande favorite du scrutin. Rachida Dati qui croit encore en ses chances. Et Agnès Buzyn en grande difficulté. Ce soir, Rosalie nous emmène dans le 5e arrondissement, l'un des deux arrondissements avec le 9e qui pourrait basculer le 28 juin au soir. La gauche espère bien conquérir ce fief historique de la droite.
Du théâtre de la Huchette au stand des bouquinistes, Florence Berthoud est chez elle quand elle se balade dans le 5e. Cet arrondissement aujourd'hui, c'est le sien et ce n'est pas parce que des sondeurs donnent la gauche devant qu'elle s'avoue vaincue.
Oui, disait déjà la même chose en 2014.
Mais en 2014, Florence Berthoud était à l'UMP. Elle est restée au sein de Les Républicains avant de rejoindre La République En Marche pour le premier tour de ses municipales, puis finalement de reprendre des LR sur sa liste pour le second tour, au risque de troubler des électeurs qui ne savent pas aujourd'hui si, à travers elle, ils votent pour Rachida Dati ou pour Agnès Buzyn, il vote contre Anne Hidalgo, répond Florence Berthoud.
Je considère que le bilan de la maire est un mauvais bilan. Donc évidemment, à l'échelle de Paris, je voterai contre la candidature de Madame Hidalgo. Mais la politisation des enjeux à l'échelle d'un arrondissement, je trouve que c'est mauvais.
Mais ce manque de lisibilité interroge la concurrence. La socialiste Marie-Christine Lemardelais est l'adversaire de Florence Berthoud dans le 5e.
Disons que dans mon parcours, il y a une certaine constance, une cohérence, une fidélité à des valeurs. Je me suis engagée à gauche depuis longtemps avec Anne Hidalgo. En face, on ne comprend pas ces revirements permanents. Et ça résume un peu sa position générale qui est d'être contre et jamais constructive ou pour des projets.
Chez les soutiens d'Anne Hidalgo, on espère bien profiter de ce flou pour remporter la mairie le 28 juin et faire basculer le 5e arrondissement à gauche après quasiment 40 ans de règne de la droite.
Rosalie Lafarge, merci. Municipal, le virus chamboule tout, c'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Revenons à présent sur la polémique autour des profs décrocheurs, ces enseignants qui n'auraient pas fait cours à distance pendant le confinement. Jean-Michel Blanquer avait évoqué le chiffre de 5% de profs décrocheurs. Hakim Kasmi, les syndicats contestent ce constat du ministre de l'Éducation.
4 à 5% de professeurs décrocheurs qui n'auraient pas fait cours à leurs élèves à distance pendant le confinement, un chiffre qui n'a rien de nouveau puisqu'il correspond déjà au nombre d'enseignants en difficulté dans les collèges et les lycées en temps normal, selon Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
Sauf cas très très particulier de déconnexion, de zone blanche, d'absence complète de matériel, de connexion, de liaison Wi-Fi ou autre. Oui, les cas de personnel qu'on a pu repérer étaient finalement des gens que nous connaissions et qui, je dirais, dans une pratique habituelle en collège ou en lycée, avaient déjà des soucis avec les classes, avec les parents d'élèves, voire avec leur administration. D'une manière générale, finalement, ça a servi peut-être juste de révélateur ou de mise en évidence, mais pas autre chose.
De son côté, Frédéric Ollet, secrétaire général du SNES, qualifie les propos de Jean-Michel Blanquer de démagogiques, d'autant que ces chiffres ne tiendraient pas compte des arrêts maladie.
On ne voit pas bien comment on pourrait véritablement établir qui a fait quoi de façon précise pendant la période du confinement. Là, on a quand même le sentiment qu'il s'agit de flatter une partie, en tout cas, de l'opinion et peut-être prévenir l'idée qu'il faudrait reprendre la discussion sur la revalorisation des enseignants, discussion qui avait été à peine amorcée avant le confinement.
Quant au ministre de l'Éducation, s'il promet des sanctions, comme l'année dernière, lors des grèves pendant le bac, les syndicats lui rappellent que des mesures disciplinaires en cas de faute grave ont toujours existé et qu'il s'agit là d'une simple opération de communication de la part de Jean-Michel Blanquer.
Hakim Kasmi, merci. Le Sénat plaide la cause de l'audiovisuel avec 10 propositions à la clé. Le groupe de travail Médias Audiovisuels Covid-19 de la Chambre Haute salue les réalisations de ces dernières semaines, mais ses représentants de la majorité comme de l'opposition demande dans un rapport que le secteur de l'audiovisuel ne soit pas l'oublié des plans de relance, Éric Chavroux.
Une information de qualité, des programmes attractifs et des succès d'audience. Ces sénateurs spécialistes de l'audiovisuel se félicitent de l'offre proposée pendant le confinement. Du marcheur André Gattolin au socialiste David Assouline, en passant par Jean-Pierre Leleu des Républicains. Mais dans leur rapport, ils soulignent que cet écosystème est aujourd'hui gravement menacé et attend un vaste soutien public qui tarde encore à se concrétiser. Après avoir auditionné les principaux dirigeants de la filière, ils craignent que les jeunes ne désertent à nouveau des rendez-vous comme les journaux télévisés ou que l'effondrement de la manne publicitaire ne s'amplifie quand des plateformes comme Netflix viennent de faire le plein en abonnés. Au moment aussi où l'avenir de la loi sur l'audiovisuel est incertain, le groupe de travail demande donc une mise à jour de la politique publique et avance 10 propositions, à commencer par un plan d'action avec des exonérations et des aides. L'audiovisuel public doit être encouragé, selon ce texte, grâce à des trajectoires financières plus adaptées à chaque entreprise et par une nouvelle redevance universelle. Mais pour les sénateurs, le regroupement des sociétés de l'audiovisuel public reste une nécessité, un gage d'économie de moyens et d'offres éditoriales véritablement communes, souvent par le biais du numérique. Des sénateurs qui souhaitent préserver la diffusion hertzienne de France 4 et aimeraient un regroupement de la numérotation des chaînes d'information pour pouvoir mieux y accéder.
Éric Chavroux. La crise économique aura eu raison d'Eurolines. La compagnie française de cars Macron va être placée en liquidation judiciaire par sa maison mère, le groupe allemand Flixbus. Les syndicats l'ont appris cet après-midi lors d'un comité social et économique. Environ 110 salariés vont perdre leur emploi. Eurolines était déficitaire depuis 4 ans, mais les syndicats accusent la direction de profiter de la crise sanitaire pour se débarrasser de l'entreprise. Yvan Planteil.
Sur la centaine de salariés, plus de la moitié étaient déjà concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi lancé fin 2019. Ça n'est pas le cas d'Elisabeth Mel. Elle travaille comme agent commercial chez Eurolines depuis sa création, il y a 35 ans. Alors avec ce dépôt de bilan, elle craint fortement pour son avenir.
Moi qui vais avoir 57 ans à la fin de l'année, je me fais du souci parce que bien évidemment, je ne suis jamais été au chômage. Donc franchement, ça va être un petit peu compliqué psychologiquement. Et puis... Au-delà de 55 ans, je pourrais avoir la possibilité d'avoir le chômage pendant 3 ans, mais après, je vais finir, au RSA, vous voyez un peu la descente aux enfers. Hein.
Comme Megabus en 2016, Eurolines s'est aussi racheté par Flixbus l'an dernier. Selon Mohamed Ben Saoud, délégué syndical CGT, la stratégie de la maison mère située en Allemagne, c'est engloutir ses concurrents.
Ils ont carrément vider la coquille Eurolines au profit de Flixbus. C'est-à-dire récupérer la clientèle, le fonds de commerce. Ils ont utilisé toutes les agences existantes pour imposer la marque Flixbus. Donc maintenant, grosso modo, on a plus de clients Eurolines, proprement dit. Maintenant, tous les contrats avec les sous-traitants, c'est Flixbus, pas Eurolines.
Les syndicats en appellent au gouvernement pour qu'il intervienne, soit en prenant des parts, soit en nationalisant l'entreprise. De son côté, la direction de Flixbus ne souhaite pas commenter, je cite, une information qui n'est pas publique.
Yvan Planteil, merci. La crise économique qui n'épargne aucun géant du transport aérien, fut-il allemand. La Lufthansa veut supprimer 22 000 emplois dans le monde, soit 16% de ses effectifs. Ludovic Piétenu nous appelle de Berlin.
Les 3 dernières années avaient été les meilleures en matière de bénéfices pour Lufthansa. Ces derniers mois ont été les pires. Nous perdons 1 million d'euros par heure, jour et nuit, semaine après semaine, déclarait il y a 2 mois le directeur général du groupe, Carsten Spohr. Cet ancien pilote de la compagnie devenu patron traverse aujourd'hui les heures les plus sombres de sa carrière, contraint d'annoncer son intention de supprimer 16% des effectifs, soit 22 000 équivalents temps plein. Lui qui estimait récemment que la compagnie employait 10 000 salariés de trop, propose aux actionnaires un plan encore plus brutal. C'est devant ces mêmes actionnaires qu'il s'exprimera dans moins de 15 jours lors d'une assemblée générale extraordinaire du groupe à Francfort. Il devra justifier ses choix, son refus d'une aide de 9 milliards d'euros de l'État allemand en échange d'une entrée au capital, cette coupe dans les effectifs et ses prévisions bien sombres en matière de trafic aérien pour les prochains mois. D'ici là, le groupe va même sortir de l'indice boursier DAX 30, l'équivalent du CAC 40 en France. Un mythe est à terre, estime le quotidien Süddeutsche Zeitung ce soir, qui se demande si ce fleuron allemand pourra se relever un jour.
Ludovic Piétenu, correspondant en Allemagne, au Royaume-Uni, c'est le fournisseur d'énergie Centrica qui réduit massivement ses effectifs. Il entend supprimer 5000 emplois sur 26 000 salariés au total. Les djihadistes s'attaquent de nouveau à la Côte d'Ivoire. Un raid islamiste a coûté la vie à une dizaine de soldats ivoiriens cette nuit dans un village frontalier du Burkina Faso. Il faut remonter à 2016 pour trouver trace d'une attaque similaire sur le sol ivoirien. C'était l'attentat du Grand Bassin qui avait fait 19 morts. La correspondance à Abidjan d'Amandine Réo.
L'attaque a eu lieu aux alentours de 3h du matin à Kafolo, un village situé à moins de 2 km de la frontière avec le Burkina Faso. Selon un bilan provisoire, une dizaine de soldats ivoiriens ont été tués et 6 autres blessés. Un assaillant a été neutralisé et un ratissage est en cours pour retrouver les autres. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais selon plusieurs sources, il pourrait s'agir de représailles. Fin mai, une opération antiterroriste conjointe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est déroulée dans la même zone. Bilan, 8 djihadistes présumés tués et 38 suspects interpellés, tous liés à la Katiba Massina, un groupe armé affilié à Al-Qaïda. L'armée ivoirienne avait alors assuré, je cite, que la zone était sous contrôle, qu'aucune base terroriste n'existait sur le territoire, mais qu'il avait peut-être pu servir de zone refuge lors des précédentes offensives de l'armée burkinabé. Fin de citation. Les plus de 1000 km de frontières séparant la Côte d'Ivoire du Mali et du Burkina Faso restent poreux, malgré le renforcement des effectifs militaires il y a un an.
Amandine Réo, correspondante en Côte d'Ivoire. Retour en France pour le temps demain. La vigilance orange, pluie, inondation est maintenue pour le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. Elle concerne aussi désormais le Cantal, la Haute-Loire, l'Aveyron, la Lozère et le Gard. D'une façon générale, le ciel sera pluvieux sur la plupart des régions. Les températures minimales iront de 8 à 17 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises de 17 à 29 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.